Un accord de coopération bilatérale a été signé entre les ministres de la Défense de l'Iran et de la Bolivie. Les forces israéliennes ont pris d'assaut la ville de Naplouse. Un Palestinien a été tué et 4 autres blessés. Et les plans de vidéosurveillance par IA pour les Jeux olympiques de Paris suscitent l'inquiétude. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un accord de coopération bilatérale a été signé entre les ministres de la Défense de l'Iran et de la Bolivie ce jeudi 20 juillet à Téhéran. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Chtieni, a déclaré lors de la cérémonie de signature de l'accord que les pays d'Amérique latine occupaient une place tout à fait importante dans la politique étrangère et de défense du pays en raison de la région stratégique de l'Amérique du Sud et que la visite de hauts responsables du pays, le président de la République islamique d'Iran entre autres, dans cette région mettait en valeur cette importance. Lors du voyage du ministre bolivien de la Défense dans le pays, nous avons essayé de lui faire découvrir les acquis et les capacités du ministère de la Défense dans diverses dimensions. La Bolivie a des demandes en termes de défense des frontières, la lutte contre le trafic de drogue, et nous avons donc essayé d'avoir des interactions avec ce pays latino-américain en termes d'équipement. Au point que cette coopération peut être prise comme un modèle pour les autres pays amis d'Amérique du Sud, a déclaré le général Chtieni. Lors de cette cérémonie, Edmundo Neville Aguilar, ministre bolivien de la Défense, a estimé positive sa visite en Iran. Notre présence en Iran a été planifiée en fonction d'une série de sujets précis. Dans notre pays, nous avons des préoccupations dans le domaine du trafic de drogue et du contrôle des frontières. Et tout en demandant l'aide de l'Iran dans ces domaines, nous espérons également coopérer avec l'université militaire iranienne dans le domaine universitaire. Le ministre iranien de la Défense, réagissant à la décision américaine d'envoyer des avions de chasse et des moyens navals supplémentaires dans le détroit d'Hormuz et la mer d'Oman, a déclaré que personne n'est en mesure de menacer un Iran puissant. Le général de brigade Mohammad Reza Chtieni a fait ses remarques en marge d'une session du cabinet à Téhéran mercredi 19 juillet, deux jours après que le porte-parole du Pentagone a confirmé que l'armée américaine enverrait le destroyer USS Thomas Sander et des avions de combat F-16 et F-35 dans la région du Golfe Persique en réponse à un certain nombre d'événements alarmants récents dans le détroit d'Hormuz. Les États-Unis poursuivent leurs propres affaires. La République islamique a atteint fondamentalement un niveau de puissance et de capacité militaire que personne ne peut la menacer. S'exprimant mardi, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Pareri, a déclaré que les ennemis avaient abandonné leur rhétorique martiale contre l'Iran ces dernières années en raison du pouvoir de dissuasion de la République islamique d'Iran. Nous avons même dépassé ce niveau et continuons à jouer notre rôle régional et international, a dit le général Chtieni, indiquant que tout cela montre que la République islamique d'Iran progresse et se développe. Il a annoncé que le ministère iranien de la Défense coopérait avec des entreprises fondées sur la connaissance dans le but d'équiper les forces armées iraniennes de nouvelles armes et de moderniser leurs équipements existants dans les domaines du combat terrestre ainsi que des navires, des hélicoptères et des drones. Les forces israéliennes ont pris d'assaut la ville de Naplouse au nord de la Cisjordanie et se sont affrontées avec des Palestiniens. Un adolescent a été tué et 4 autres Palestiniens blessés. Les militaires du régime sioniste ont escorté un groupe de colons, dont le commissaire de police Kobi Shabtai et d'autres responsables de la police, qui visitaient le tombeau du prophète Youssef tôt jeudi. La visite provocatrice a déclenché des affrontements avec les Palestiniens, qui ont tenté de faire face aux raids israéliens. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que Bader Sami Masri, 19 ans, a été touché par des tirs israéliens et transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures. Au moins 4 Palestiniens ont également été blessés par balles lors des affrontements, dont 2 se trouvent dans un état grave, a déclaré le Croissant Rouge palestinien dans un communiqué. Il a également indiqué que 30 Palestiniens avaient été soignés après avoir inhalé de gaz lacrymogène, dont une fillette de 12 ans. Ahmed Djibril, chef du service des urgences et des ambulances du Croissant Rouge à Naplouse, a déclaré que les troupes du régime sioniste avaient tiré des balles en métal recouvertes de caoutchouc sur une ambulance qui transportait un patient près du camp de réfugiés de Balata. Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient des combattants palestiniens faisant exploser un bulldozer blindé israélien avec un engin explosif improvisé. des centaines de manifestants irakiens ont pris d'assaut jeudi 20 juillet l'ambassade de Suède dans la capitale Bagdad et ont incendié un secteur en guise de protestation contre la deuxième profanation prévue du Saint-Coran en Suède. Les manifestants en colère, qui étaient des partisans de l'éminent religieux chiite irakien Murtadha al-Sadr, ont pris d'assaut les portes principales du bâtiment de l'ambassade jeudi, brandissant des exemplaires du Coran et scandant des slogans pro-Sadr. L'assaut de l'ambassade suédoise à Bagdad intervient après que la police suédoise a autorisé un rassemblement jeudi devant l'ambassade irakienne à Stockholm, où les organisateurs prévoient de brûler une copie du livre saint des musulmans ainsi que le drapeau irakien. On dit que l'une des deux personnes qui ont reçu le feu vert des responsables suédois pour mener cette action offensive est Salman Momika, celui qui a brûlé le Saint-Coran à Stockholm le 28 juin. Le ministère irakien des Affaires étrangères a condamné l'incendie du bâtiment de l'ambassade de Suède dans un communiqué, affirmant que le gouvernement irakien avait ordonné aux forces de sécurité de mener une enquête rapide afin d'identifier les auteurs et de leur demander des comptes. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a fermement condamné mercredi 19 juillet la décision du Congrès américain selon laquelle Israël n'est pas un État raciste ou d'apartheid, soulignant que cette résolution ne changera rien à la nature fasciste et raciste du régime sioniste. Pour le Hamas, la décision américaine ignorait la sombre histoire de l'occupation israélienne qui est basée sur la politique de nettoyage ethnique et le déplacement des propriétaires terriens, ainsi que leur remplacement par des envahisseurs et des occupants. La résolution a également fermé les yeux sur les crimes récemment commis par des gangs de colons israéliens illégaux qui, sous la protection de l'armée israélienne, se sont livrés à des incendies criminels et à la destruction organisée de maisons, de véhicules et de fermes dans la ville de Hawara, dans le nord de la Cisjordanie occupée, ainsi que des dizaines de villages palestiniens, lit-on dans le communiqué du Hamas. Des groupes de défense des droits de l'homme remettent en cause l'idée du gouvernement français pour l'utilisation des vidéosurveillances par IA pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Les responsables français ont annoncé leur intention d'utiliser des caméras en temps réel avec IA pour des mesures de sécurité lors des Jeux olympiques d'été de Paris 2024 qui pourraient surveiller des centaines de milliers de spectateurs. Malgré les assurances du gouvernement français selon lesquelles les propositions de sécurité n'incluront pas les technologies de reconnaissance faciale et que les caméras d'intelligence artificielle ne seront expérimentales que pendant une certaine période, les militants restent mécontents. Les Jeux olympiques de Paris sont prévus du 26 juillet au 11 août 2024. La période expérimentale devant se terminer en mars 2025. Des inquiétudes sont exprimées quant au fait que la véritable intention du gouvernement est de rendre ces dispositions de sécurité permanentes. La Cour constitutionnelle française a sanctionné la surveillance automatisée par caméra vidéo utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter les activités suspectes ou anormales dans les foules lors des prochains Jeux olympiques de Paris. Les ministres insistant sur des mesures de sécurité exceptionnelles pour l'événement qui devrait attirer environ 13 millions de spectateurs. Des groupes de défense des droits de l'homme ont remis en question la définition de comportement anormal ou suspect et ont exprimé des inquiétudes quant aux violations potentielles de la vie privée, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion et du principe de non-discrimination. Cette critique intervient dans le contexte d'accusations antérieures d'autoritarisme contre le président français Emmanuel Macron suite à sa suggestion de fermer les réseaux sociaux pour faire face aux troubles de masse déclenchés par le meurtre d'un adolescent de 17 ans par la police à Nanterre. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Morte de Nahel. Des centaines de manifestants ont été incarcérés. Le ministre français de la Justice a fait le bilan du récent mouvement de contestation qui a touché la France après la mort du jeune Nahel. Plus de 1 000 personnes ont été condamnées à de la prison, dont 742, à de la prison ferme, a-t-il annoncé. Au total, à la suite des violences qui ont embrasé la France fin juin, 1278 jugements ont été prononcés, avec 95% de condamnations, a détaillé le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur la radio RTL, mercredi 19 juillet. Il a ajouté que 1300 personnes avaient été déférées au parquet et que 905 avaient fait l'objet d'une comparution immédiate. À l'issue de ces audiences, 1056 personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement, dont 742 à une peine ferme avec une durée moyenne de 8,2 mois. Pour l'instant, 600 personnes ont été incarcérées. Les manifestations et les troubles sans précédent en France depuis 2005 ont commencé le 27 juin après qu'un policier a tiré à bout portant sur un adolescent algérien de 17 ans lors d'un contrôle routier à Nanterre, à l'ouest de Paris. Le ministre français de la Justice a expliqué à propos des verdicts rendus contre les émeutiers que plus de 95% des accusés ont été reconnus coupables de divers crimes, notamment de vandalisme, de vol, d'incendie criminel ou d'attaque contre des policiers et des forces de sécurité. De nombreux suspects ont dû comparaître immédiatement devant le tribunal dans le cadre d'un système accéléré qui a suscité des inquiétudes chez les avocats des accusés quant à l'équité de la procédure judiciaire et aux peines sévères pour les criminels. Selon le ministre, bien que les courtes peines de prison puissent généralement être commuées en peines non privatives de liberté, généralement avec l'utilisation de bracelets électroniques, quelques 600 personnes ont été envoyées en prison jusqu'à présent. Selon les statistiques du gouvernement français, l'âge moyen de plus de 3700 détenus n'était que de 17 ans. Ce qui a fait que les mineurs comparaissaient séparément devant les tribunaux pour enfants. On ne peut pas regarder ces événements en laissant faire les choses. Il était impérieux que nous rétablissions l'ordre républicain, a-t-il ajouté avant de saluer les procureurs qui ont été au rendez-vous des obligations de fermeté. Éric Dupond-Moretti a également souligné que l'autre but était de rappeler aux jeunes que Snapchat, ce n'est pas une planque et qu'on peut, comme on dit, péter les comptes et que quand deux gamins s'appellent pour se donner rendez-vous et pour viser une cible, on peut les trouver. Et d'ailleurs, ça a été fait et des condamnations sont intervenues.